Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, petit bilan aujourd'hui 21 novembre 2011 de la crise économique et de l'euro. Pour ce rendez-vous qui devient régulier, nous retrouvons Philippe Jorgensen et Pierre Sabatier, nos économistes de choc, qui vous éclairent sur la situation économique du pays et du monde. Pour y voir un peu plus clair et pour parler aussi du fond, nous avons vu récemment plusieurs renouvellements politiques, élection de nouveaux chefs de gouvernement en Italie, en Espagne, en Grèce, pendant que les indignés du système bancaire se multiplient dans le monde. Où cela va-t-il nous mener ? Messieurs.
Alors, les choses changent. Nous sommes sans doute à la croisée des chemins, notamment en Europe. On va dire que le monde, dans son ensemble, est dans un état précaire, mais les premiers touchés sont les Européens. Malheureusement, on le sait, on n'était pas les pays les plus en mauvais état. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes pris, je dirais, dans le tourbillon des troubles monétaires, parce qu'on n'a pas été en mesure, justement, de se mettre d'accord pour arriver à construire une politique économique et financière coordonnée qui permette à l'ensemble de nos États et nos pays et nos entreprises de fonctionner de manière homogène. Aujourd'hui, on en est là. Nous sommes à la croisée des chemins parce que très clairement, les risques qui pèsent sur la zone euro sont très élevés, notamment par l'intermédiaire des risques qui pèsent sur la monnaie. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution pour faire face aux attaques spéculatives incessantes en provenance des marchés, notamment pour les obligations souveraines de nos États. Dans un premier temps, des États les plus fragiles, comme la Grèce. C'était une surprise pour personne en réalité, puisque c'était réellement le plus mauvais élève de la classe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, des pays comme l'Italie, qui pourtant eux ne sont pas réellement des mauvais élèves, sont eux aussi attaqués, payent leurs dettes sur des niveaux qui sont autour de 6%, 7%, donc des niveaux qui sont très clairement insoutenables et qui génèrent une crise de liquidité. Souvent, les gens évoquent en fait la crise actuelle et la caractérisent en l'appelant une crise de solvabilité de la zone euro. Ce qui se passe en Italie n'est pas une crise de solvabilité. L'État italien affiche un excédent budgétaire primaire positif, un excédent, c'est-à-dire que les recettes fiscales sont supérieures aujourd'hui aux dépenses engagées par l'État en Italie, simplement, où aujourd'hui elle pâtit d'un stock de dettes engrangé durant les dernières décennies. Et simplement ce stock de dettes-là, il est soutenable lorsque vous payez votre dette 3-4%, il ne l'est plus quand vous la payez 7%. Donc c'est une crise de liquidité. Aujourd'hui, les obligations italiennes valent plus que ce qu'elles valent aujourd'hui. Donc c'est très clairement un actif sous-coté, mais on a, je dirais, laissé rentrer dans la maison un inconnu qui est cette possibilité qu'un État de la zone euro pourrait faire faillite. Et ça, je dirais, ça fragilise l'ensemble de la zone. Pour une raison simple, on l'évoquait tout à l'heure, notre système financier repose sur et a besoin d'un actif sans risque. Ça s'appelle une référence. Voilà, le bonheur étant relatif, on est toujours là, enfin, dans nos pays, on est des situations très confortables. Voilà, on vous enlève un petit peu, vous êtes mécontent et vous êtes malheureux. Dans des pays qui ont pourtant en valeur absolue des niveaux de confort qui sont bien inférieurs, vous leur donnez un tout petit peu plus, ils sont très heureux. Et pourtant, la situation dans un pays riche comparativement à un pays pauvre, je dirais, s'écarte énormément. Mais la réalité, c'est que tout système pour fonctionner a besoin d'une référence. La référence, c'était aujourd'hui l'actif sans risque, les obligations souveraines, les obligations d'État. On a pris un risque parce que on a laissé rentrer dans l'inconscient des investisseurs qu'il était possible que ces actifs qu'on considérait sans risque ne l'étaient pas. Et lorsque l'ensemble du système, à la fois le système bancaire, le système des assurances, repose sur cette référence, à savoir les obligations souveraines, ben aujourd'hui on en est où quid de l'avenir, puisque tout le système qu'on a fondé repose sur un pilier qui n'était pas un pilier aussi solide qu'on aurait cru.
Pierre Sabatier a tout à fait raison. Les marchés n'évaluent pas rationnellement la situation. Actuellement, c'est d'ailleurs pas le seul angle sous lequel on le voit. On voit beaucoup d'irrationalité des marchés ces derniers temps, depuis le début de la crise en 2008. Mais là, c'est particulièrement flagrant. C'est vrai que la manière dont est cotée l'Italie, entre autres, qui a, comme il l'a dit, un surplus primaire, c'est-à-dire un excédent hors intérêt de la dette, n'est pas normale. Tout ça est essentiellement une réaction psychologique, une réaction des anticipations de marché et pas un raisonnement froid et logique. Mais en même temps, c'est vrai qu'on comprend ces anticipations négatives parce que depuis le début de cette crise des dettes souveraines, depuis l'an dernier, l'Europe a à chaque fois tiré un peu trop tard et un peu trop court. Too little, too late, disent les anglo-saxons. Et nous sommes malheureusement encore dans cette situation. C'est-à-dire que on court à chaque fois derrière les marchés. On fait quelque chose, on a présenté encore il y a 3 semaines un nouveau plan bien conçu qui aurait parfaitement suffi il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui, une fois de plus, est trop court et ne répond pas suffisamment aux inquiétudes. Et je crois qu'on est arrivé maintenant à une croisée des chemins. Si on laisse la crise s'aggraver encore en continuant à jouer petit bras, pour parler familièrement, à faire trop peu et trop tard, la crise risque de s'approfondir et finalement d'échapper à tout contrôle. Ça n'est pas une crise de l'euro. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut le répéter. L'euro n'est pas faible, il est fort, il est trop fort encore. Et finalement, une bonne chose, peut-être d'ailleurs une solution à la crise, si on pouvait le faire, ce serait que l'euro baisse nettement en dessous de son niveau actuel. Il est encore surcoté aujourd'hui. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de commentateurs en disant l'euro s'affaiblit. Non, l'euro reste trop fort. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement une crise de confiance dans un certain nombre de pays qui parfois le méritent et qui parfois le méritent moins. Mais cette crise de confiance, aujourd'hui, est entièrement mue par des facteurs peu rationnels ou par un manque de confiance dans les mesures que prennent les gouvernements. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes effectivement placés devant la croisée des chemins. On pourra peut-être parler tout à l'heure des solutions de fond qui se dessinent. Et je crois qu'il n'y a que deux voies possibles aujourd'hui pour répondre sérieusement, à temps et sur une échelle suffisante au problème. Ou bien recourir à la création monétaire, c'est une des voies possibles, ou bien construire réellement un système supranational, ce qui nécessite des sacrifices que les opinions publiques ou les gouvernements n'ont jamais voulu faire.
Est-ce que vous pensez que les gouvernements actuels, donc, qui ont été élus ces derniers temps, vont vraiment changer quelque chose? Autrement dit, est-ce que le national peut changer l'international et l'européen?
Alors, du point de vue des investisseurs, très clairement non. Beaucoup de commentateurs, beaucoup de médias d'ailleurs, le souhaitaient. J'étais justement en plateau assez souvent lorsqu'on apprenait le changement du chef de gouvernement. Malheureusement, ça ne règle pas les problèmes. Les problèmes, ils sont bien au-delà des personnes qui représentent les États actuellement. Philippe l'évoquait à juste titre. On a aujourd'hui deux solutions, soit la création monétaire, qui n'en serait pas vraiment d'ailleurs. Donc, je vais juste développer rapidement ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on constate en zone euro? Le problème, on fait tous référence au quantitative easing que réalise la Banque centrale américaine. Pour éviter la déflation, la Banque centrale américaine imprime du papier, voilà, et donc joue le rôle du prêteur en dernier ressort, d'ailleurs, de l'État américain. Donc, la crainte derrière tout ça, c'est l'inflation. Sauf que l'inflation, elle n'est pas totalement déterminée par le comportement de la banque centrale. C'est les banques commerciales qui vont ou non engendrer de l'inflation. C'est-à-dire, c'est la réelle monnaie en circulation dans nos sociétés, c'est bien l'argent que vous prêtez vos banques commerciales. Ce qu'on constate en zone euro, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans du quantitative easing, on a un quantitative easing négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos banques sont dans une telle incertitude, on a tellement peu de visibilité sur le bilan de nos banques qu'elles sont en train de moins prêter. C'est-à-dire que leur bilan diminue, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'argent en circulation. Donc à partir de là, ça a des effets récessifs sur la richesse créée dans nos zones. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement de la création monétaire, mais qui n'aurait pas vocation à générer de l'inflation, in fine, simplement à limiter la baisse qu'on constate actuellement de la distribution de crédit par nos établissements bancaires. Donc non, pour répondre aux Allemands, puisque c'est une des critiques fondamentales qui est faite à la possibilité qu'on aurait, par l'intermédiaire de la Banque Centrale Européenne, j'irais d'honorer, en tout cas de prêter aux États qui sont aujourd'hui en difficulté, à des taux d'intérêt qui seraient inférieurs, du coup, de fait, inférieurs au niveau auquel ils se trouvent actuellement. La principale critique de la part des Allemands, c'est que ça serait quelque chose d'inflationniste. Non, c'est faux. Aujourd'hui, ça ne serait pas inflationniste parce qu'il faudrait le faire, je dirais, avec d'une ampleur qui serait simplement là pour limiter la baisse de la taille des bilans des banques, à savoir le fait que les banques vous prêtent moins aux consommateurs, prêtent moins aux entreprises dans l'ensemble, et les banques se prêtent également moins entre elles. Donc tout ça fait que simplement la taille du gâteau à se partager, à consommer sur l'ensemble de la zone diminue. Donc vous êtes dans une situation récessive. Et dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, la crainte génère la crainte et génère le report des achats, de vos achats immobiliers, vos achats d'automobiles ou vos achats d'électroménagers, parce que vous êtes moins confiant en l'avenir. Le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est pas simplement, si effectivement on souhaite la stabilité des prix, il faut que la Banque Centrale Européenne, dans ces conditions, imprime de la monnaie. Ça ne sera pas inflationniste, ça permettra de maintenir justement la stabilité des prix, sinon vous rentrez dans un cycle qui, lui, et l'inverse de l'inflation, c'est la déflation. C'est-à-dire que la taille du gâteau à se partager diminuant, les prix, vous rentrez dans un cercle vicieux déflationniste qu'a connu par exemple le Japon, pour des raisons qui sont quelque peu différentes aux nôtres, mais que connaît le Japon en réalité depuis une quinzaine d'années.
Alors, il est certain que la voie d'un peu de création monétaire serait probablement souhaitable. D'ailleurs, si on réfléchit sur le fond, aucun pays ou groupe de pays ne s'est tiré d'une grave crise de la dette, d'une crise de surendettement, sans qu'il y ait un petit peu de création monétaire. Et d'ailleurs, ceux qui disent qu'il faut détruire la zone euro disent qu'il faut la détruire pour pouvoir faire de la création monétaire, comme effectivement le font les Américains avec le quantitative easing, les Anglais tout autant, et avec effectivement un certain effet, limité d'ailleurs, mais enfin un certain effet de relance de leur économie. C'est tout à fait vrai. comme le dit Pierre, que dans une situation où on a aujourd'hui essentiellement des anticipations déflationnistes et des pressions déflationnistes sur l'économie, le risque qu'on prend en matière d'inflation en faisant un petit peu marcher la planche à billets est limité. Le problème de cette solution, c'est que les Allemands n'en veulent à aucun prix. On sait pourquoi, on connaît leur histoire, l'hyperinflation des années 20, qui a été une des causes de la montée du nazisme et de tous les malheurs qui sont arrivés à l'Allemagne. On comprend qu'ils soient très très réticents sur cette idée. Du coup, dans les statuts de la BCE, elle a pour mission unique de lutter contre l'inflation. Juridiquement, c'est difficile de changer ces statuts d'un claquement de doigts. Et il faut même voir que la Banque Centrale Européenne est déjà allée assez loin pour s'éloigner de ces statuts. Par exemple, quand elle a racheté des quantités importantes, près de 200 milliards d'euros d'obligations souveraines des pays justement qui connaissent aujourd'hui des difficultés pour leur venir en aide, elle a un petit peu contourné le fameux article 125 du traité de Lisbonne qui lui interdit de venir au secours d'un État en difficulté. On a fait de l'interprétation intelligente et elle a, d'une certaine manière, monétisé la dette, fait marcher la planche à billets. Sauf que ses interventions ont été stérilisées, et sauf que, comme l'a dit Pierre, elle se situe dans un cadre où on peut pas dire que le danger principal qui menace nos économies aujourd'hui soit celui de l'inflation. Mais voilà, c'est une difficulté politique très grande et peut-être insurmontable, ce qui ne laisse à ce moment-là la voie qu'à la deuxième branche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de la supranationalité. Mais avant, je voudrais encore dire un mot d'un autre aspect. C'est vrai que le danger principal qui nous menace aujourd'hui, c'est celui de ce que les anglo-saxons appellent le credit crunch, c'est-à-dire le manque de crédit, l'assèchement du crédit dont les entreprises ont besoin pour fonctionner. Il faut que les banques continuent à leur prêter. Alors tous les États disent aux banques, vous devez continuer à prêter. Toutes les banques disent, on va continuer à prêter. Mais quand on regarde la réalité, en réalité, ce credit crunch a déjà commencé. Mmh. Et ça, ça peut avoir des conséquences très graves et transformer le ralentissement économique actuel en une vraie récession. Mais outre les inquiétudes des marchés, le fait que les banques voient leurs cours attaqués, etc., il y a un autre facteur très malheureux qui joue en ce sens, c'est qu'à la suite de la précédente crise, celle de 2008, on s'est dit il faut que les banques aient davantage de réserves pour faire face à un choc et on va resserrer les réglementations financières. Et avec notamment les nouvelles réglementations dites Bâle 3, Solvabilité 2 pour les assurances, on a introduit des ratios extrêmement stricts, encore plus stricts pour les banques dites systémiques, les plus grosses. Et on les oblige, en pleine crise, à rechercher davantage de fonds propres, à améliorer le ratio entre fonds propres et risques. Et comme elles ont du mal, dans les circonstances de marché actuelles, à trouver plus de fonds propres, ce qui se passe, c'est qu'elles ont envie de réduire les risques. Et donc, cette réglementation, s'ajoutant à la crise, mais c'est vraiment une cause un peu différente, cette réglementation aggrave sérieusement le problème. On a aujourd'hui des banques qui ne pensent qu'à améliorer la structure de leur bilan, avoir un meilleur ratio de fonds propres, et donc qui sont très très fortement tentées de prêter moins. Si elles le font, ça va contribuer à la crise, et ça ne va évidemment pas dans le bon sens. Il est probablement urgent de réviser ces réglementations qui sont pro-cycliques, comme
absolument,
on dit, qui aggravent la crise au lieu de la résoudre.
Tout comme d'ailleurs l'histoire nous démontre systématiquement les mêmes phénomènes, puisque c'est aussi en partie par le comportement pro-cyclique des banques, par contre, avant la période de 2008, que la crise de 2008 a été aussi sévère. Voilà. Donc pourtant, systématiquement, à l'occasion de chaque crise, on le mentionne, l'important dans les politiques, qu'elles soient publiques ou réglementaires, c'est toujours la contracyclicité. Voilà. Donc lorsque la machine ralentit, avoir des réglementations qui permettent de réinjecter du carburant pour que la voiture continue de rouler, et inversement, lorsque la voiture va trop vite, essayer de freiner tout ça. Ça s'appelle des politiques contracycliques, voilà, qu'il faudrait mener, que ce soit en termes de politique budgétaire, bien entendu, lorsqu'on a des phases de croissance, eh bien, il est temps justement de mettre des cacahuètes de côté, hein, pour se donner des marges de manœuvre lorsque la crise arrive. Et par contre, en situation de crise, en temps de crise, c'est grâce aux marges de manœuvre qu'on a su dégager durant l'été qu'on peut justement faire face et réinjecter du carburant lorsque on peut faire face à des situations de credit crunch où les gens ont moins de visibilité sur leur avenir.
Voilà. Mais quand on est en déficit, comment on fait ?
Voilà la réalité du problème, ça sera extrêmement compliqué. Hein. Philippe et moi, très clairement, on est d'accord sur ce point. Nous sommes sur la brèche, le chemin est extrêmement peu large. Je dirais qu'il se rétrécit pas après pas puisque les mois passent et nous commettons toujours les mêmes erreurs. Effectivement, on court toujours derrière la courbe, hein, que ce soit en termes de politique publique ou de politique financière et de réglementation. Donc aujourd'hui, on est sans doute à la croisée des chemins. Et le problème aussi en Europe, c'est qu'on a affaire à des populations qui sont quand même extrêmement différentes. Et je reviendrai sur sans doute une deuxième raison pour laquelle les Allemands sont aussi réticents à mener des politiques de création monétaire qui pourrait mener jusqu'au chemin de l'inflation. Il faut savoir que d'un point de vue strictement démographique, la population allemande est une population qui est beaucoup plus vieille que l'ensemble des autres populations d'Europe. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une forte cohorte de plus de 65 ans, à savoir des gens qui sont en règle générale en cessation d'activité? Qu'est-ce qu'ils craignent le plus et qu'est-ce qui génère le plus de mécontentement? C'est bien entendu l'inflation, puisque l'inflation, elle pénalise qui d'abord? Elle pénalise les rentiers. De fait, en cessation d'activité, vous êtes rentier, c'est-à-dire que vous consommez l'épargne, soit que vous avez mutualisé, soit que vous avez capitalisé tout au long de votre vie. Voilà. Et donc, ce que vous craignez le plus, c'est aussi l'inflation. Plus les populations seront vieilles, plus j'irai ce discours anti-inflationniste, qui pourtant permettrait effectivement de régler un certain nombre de problèmes, sera difficile à passer, puisque très clairement, c'est une perte de pouvoir d'achat pour une part de votre population qui ne cesse de grandir. Voilà.
J'aimerais avoir votre avis sur le mouvement des indignés qui n'arrête pas de croître. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui donc manifestent contre un système finalement où l'État injecte régulièrement de l'argent dans les banques et finalement se sentent très concernés puisque l'État, c'est le contribuable?
Bien sûr qu'on comprend tout à fait le mouvement des indignés. Et il a effectivement deux causes. D'une part, l'austérité elle-même. Mais l'austérité, on aurait les uns et les autres, les différents pays d'Europe, dû y venir de toute façon parce que tout le monde comprend quand même qu'on ne peut pas durablement dépenser plus qu'on ne gagne. Or, c'est ce qu'on fait en France depuis 30 ans. Le dernier budget en équilibre, c'est 1974, donc ça fait même 37 ans, qu'on dépense plus qu'on ne gagne. Donc, de toute façon, crise ou pas, Europe ou pas, il aurait fallu réintroduire un peu d'austérité. Mais évidemment, quand on a vécu à crédit pendant des années et qu'il faut brusquement équilibrer son budget, voire le rendre excédentaire pour se désendetter, pour rembourser les dettes passées, c'est un très mauvais moment à passer. Ça implique des mesures socialement difficiles. Et donc, c'est une première cause de l'indignation. Cette cause-là, il est difficile d'y remédier. Mais la deuxième cause qui s'associe à la première, c'est le sentiment d'injustice. Et là, dans la mesure où on a le sentiment que les classes laborieuses sont plus mises à contribution que les rentiers dont parlait tout à l'heure Pierre Sabatier, plus mises à contribution que les dirigeants qui, dès qu'ils ont pu, se sont mis à se réattribuer des stock options, des salaires élevés, plus que les banques au secours desquelles les États sont venus et qui ne leur ont pas rendu l'appareil, c'est vrai qu'on comprend. On comprend cette indignation, même si elle est quelquefois un peu mal placée, mal orientée, on comprend tout à fait. La crise de 2008 est quand même due aux excès invraisemblables d'un système financier qui échappait pour une bonne partie à toute régulation et qui a commis des excès absolument effarants, incontrôlés. Les masses en jeu sont absolument colossales. On considère qu'il y a 600 trillions de dollars, c'est-à-dire 600 000 milliards de dollars sur les marchés de produits dérivés. 10 fois le produit mondial, 10 fois la richesse produite en une année dans le monde. C'est évidemment la source de déséquilibre auquel on a remédié trop tard. Et quand la crise a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un certain nombre d'organismes financiers qui s'étaient beaucoup trop aventurés, qui avaient par exemple délivré en masse des CDS, c'est-à-dire des couvertures d'assurance contre le risque de défaut d'un emprunteur, se sont trouvés hors d'état de les honorer, de les payer. Et si on avait laissé cette panique financière continuer, on aurait probablement eu une crise 10 fois plus grave que ce qui s'est passé. Donc les États se sont sentis obligés d'intervenir. Mais ça leur a coûté très cher et c'est une partie de la cause de l'excès d'endettement aujourd'hui que les marchés financiers leur reprochent. Donc c'est vrai que d'un point de vue moral, en quelque sorte, c'est quelque chose de très injuste dans ce fait d'avoir mobilisé la collectivité pour venir en aide aux banques et aux financiers parce que les conséquences de la crise auraient été trop graves et ensuite d'être attaqué par ces mêmes financiers parce qu'on est trop endetté.
Pierre Sabatier, vous vouliez rajouter un mot ?
Oui, absolument. Tout à l'heure, Philippe évoquait le fait qu'en 2007, on a évité, grâce au comportement des États, pour une fois, de manière, coopérative, puisque tous les États et toutes les banques centrales ont fait à peu près la même chose au même moment, ce qui a permis d'éviter sans doute une nouvelle grande dépression. Sauf qu'il faut bien avoir conscience que ce qu'on a essayé d'éviter, c'est le risque systémique. C'est-à-dire justement le risque des leviers essentiels à la création de richesses dans nos sociétés, que sont les banques et dans une certaine mesure les assurances, ne tombent en faillite et entraînent des faillites en chaîne. Le risque européen, il est là. Donc aujourd'hui, bien entendu, il y a un aléa moral. On ne peut pas laisser des États qui ont fait n'importe quoi pendant des années, voire des décennies, continuer à faire n'importe quoi. Mais attention, il ne faut pas, pour sanctionner des États qui ont eu des comportements relativement malsains, prendre le risque d'entraîner un risque systémique qui entraînerait des faillites en chaîne d'établissements bancaires, donc bien entendu derrière, une récession d'une grande sévérité. Donc il est urgent d'agir et de lutter de toutes ses forces contre ce risque systémique qui ne cesse d'enfler. Et je vous assure que les acteurs du monde de la finance sont aujourd'hui très très incertains Il faudra trouver des solutions, mais pas dans un an ou dans deux ans. Il faudra trouver des solutions dans les mois qui viennent, sinon l'euro aura du mal à continuer à exister et entraînera sans doute la zone euro dans une récession qui sera autrement plus sévère sans doute que ce qu'on a pu connaître en 2008.
Sera-t-il possible que l'État intervienne moins au renflouement des banques ?
Alors simplement, enfin, il faut bien voir que les sommes en jeu sont telles aujourd'hui qu'une intervention unique d'un État ne suffira pas. Donc c'est bien entendu là aussi la raison pour laquelle on implique comme levier la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que si on essaye encore une fois de résoudre ce problème-là avec simplement l'argent qui est en circulation actuellement, on aura beaucoup de mal. C'est le concept en fait d'une purge. Là aussi, il faut revenir aux origines de la crise. Les origines de la crise, c'est d'abord une crise de surendettement total, pas uniquement des États. Surendettement des agents privés, entreprises, ménages surtout, et aujourd'hui, État, la sphère publique. Donc la réalité, c'est que quand vous êtes trop endetté, à un moment donné, il va falloir réduire le niveau de dette totale. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a fait que des vases communicants, à savoir que la dette privée a été transférée sur la sphère publique, mais on n'a pas encore entamé réellement, je dirais, cette diminution de l'endettement total. Alors soit vous diminuez réellement votre endettement total au prix de récession et de croissance économique qui sont très faibles, ça c'est sans doute la trajectoire qu'on va emprunter, soit vous imprimez de la monnaie et vous rendez votre stock de dette plus soutenable parce que simplement la valeur de la monnaie a évolué et vous a permis de faire face à vos dettes, même si bien entendu d'une certaine manière vous spoliez les gens qui vous ont prêté à une époque.
Il faut bien voir que la situation des banques n'est pas forcément si grave que ça et je doute en fait qu'elle appelle une deuxième phase d'intervention publique. Pourquoi ? Parce que si l'on adopte une des deux solutions de fond dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça qu'attendent les marchés, qu'il y ait maintenant une solution de fond, le problème sera résolu et les banques ne feront pas les pertes dont on parle aujourd'hui. Si on prend la branche de la création monétaire, c'est-à-dire si la Banque Centrale Européenne, et encore une fois c'est difficile à obtenir des Allemands, se décide à faire marcher de façon un peu plus ouverte et surtout en l'annonçant, la création monétaire. Mais le problème s'arrêtera instantanément de lui-même.
Absolument.
Les taux s'arrêteront de grimper et les banques ne seront, comme par magie, plus en difficulté. La Banque Centrale Européenne, elle a l'arme ultime, l'arme
Bien
de
sûr.
Dissuasion nucléaire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est d'accord pour monétiser la dette, ses capacités d'intervention sont sans limite.
Absolument.
Et comme tout le monde sait qu'elles sont sans limite, il suffit de l'annoncer à la limite sans avoir réellement besoin d'utiliser ses capacités, ce qui devrait là aussi peut-être calmer les inquiétudes des Allemands, mais ce qui pour le moment ne les calme pas. La deuxième voie possible, c'est-à-dire celle de la supranationalité, est aussi une voie qui permet d'éviter une crise bancaire. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire un effort de solidarité, qui est d'ailleurs indispensable pour que nous soyons dans ce qui a été décrit depuis longtemps par les économistes, le professeur Mundell notamment, comme une zone monétaire optimale. Dans une zone monétaire optimale, il faut que les facteurs de production, c'est-à-dire les travailleurs et les capitaux, puissent se déplacer librement, et il faut une solidarité. Donc il faut un budget commun et que ce budget commun puisse aider les parties de la zone monétaire qui sont en difficulté. De même qu'aux États-Unis, s'il y a un problème dans l'Arkansas, la Californie, d'une certaine manière, paye pour, inévitablement, dans une zone solidaire, l'Allemagne, par exemple, devra payer pour la Grèce. Mais on comprend bien que cette situation est insupportable pour les Allemands, même pour nous. Si on a l'impression qu'on verse dans un puits sans fond pour aider des pays qui ont une politique complètement aberrante et même choquante. Et c'est malheureusement le cas de la Grèce, peut-être moins d'autres pays, mais on comprend bien que l'opinion publique allemande trouve insupportable de puiser sans cesse dans ses réserves pour aider un pays qui ne fait pas rentrer ses impôts, où la corruption paraît importante, etc. Donc les deux choses sont indissociables. Avoir une vraie solidarité budgétaire, par exemple émettre les fameux Eurobonds dont on parle, émettre en commun une dette commune. Ça n'est supportable que si on est assuré que tout le monde a un minimum de bon comportement. Et donc, on a à la place du pacte de stabilité et de croissance, que les Allemands et les Français d'ailleurs ont été les premiers à violer, quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus contraignant. Et donc, une certaine dose de supranationalité. C'est la seule chose qui peut rendre acceptable pour les plus riches le fait d'aider les plus pauvres. Les aider sans contrepartie, c'est tout simplement impossible à avaler politiquement. Alors, la Commission vient de sortir une proposition dans laquelle elle met clairement les cartes sur la table, c'est-à-dire elle propose de faire ces fameux Eurobonds, d'avoir une dette en commun. Donc, d'une certaine manière, de mettre le crédit de l'Allemagne, son triple A sur les marchés financiers,
au
service de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, etc. Mais en contrepartie, on ne peut pas le dire plus clairement, elle a un chapitre qui s'appelle « Intrusion dans les politiques budgétaires nationales ». C'est-à-dire que chaque pays n'est plus libre de faire toutes les bêtises dont il a envie politiquement, parce qu'il est un pays souverain. C'est l'autre branche qu'on peut choisir, ou la création monétaire, ou plus de supranationalité, quelque chose comme ce que Jean-Claude Trichet voulait dire quand il a dit qu'il faudrait un ministre des Finances commun.
C'est de la coordination, bien entendu. Voilà.
Absolument. Un pacte avec de véritables sanctions appliquées, ce qui n'a jamais été le cas, et ce qui veut dire probablement des sanctions non seulement financières pour les pays qui se comportent mal, mais aussi politiques, ce qui, pour des dirigeants politiques, fait parfois plus mal que les sanctions financières. Alors, on parle de limitation des droits de vote, de suspension, etc. Et tout ça est effectivement très voyant. Mais c'est la contrepartie, je crois, indispensable aux efforts qu'on demande à ceux qui doivent se montrer solidaires.
Je suis d'autant plus d'accord qu'en réalité, je ne crois pas que ces deux solutions-là soient exclusives. Je pense qu'elles vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour que là aussi, si on veut que la Banque Centrale Européenne imprime de la monnaie au titre de tout le monde au final, c'est-à-dire si elle se met en face de chacune des dettes, il faudra bien entendu de la coordination, de la coopération et vérifier en fait que l'ensemble des pays jouent bien les mêmes règles du jeu. Donc pour moi, il n'y a pas deux solutions en fait, les deux font partie de la même solution. Et les deux aspects en fait sont absolument fondamentaux. Je le répète, sans Banque Centrale Européenne, sans Banque Centrale qui joue son rôle de Banque Centrale, il n'y a pas de sens d'avoir une zone monétaire unifiée. Et derrière, évidemment, pour que l'ensemble des régions qui composent cette zone monétaire unifiée, bon, ces régions-là sont l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., pour accepter justement de prendre le risque solidaire des investissements, des erreurs des autres, il faut bien entendu qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit bien défini et des autorités de contrôle qui vérifient que les règles justement soient bien appliquées. Donc l'un ne va pas sans l'autre et c'est effectivement sans doute la seule solution pour que cette zone euro puisse se projeter de manière cohérente et ensemble. Après, est-ce qu'aujourd'hui les opinions publiques sont prêtes à faire ces sacrifices de supranationalité ? La vraie question derrière, c'est est-ce que, un, les hommes politiques sont prêts à s'engager dans cette voie qui consisterait à perdre un petit peu de leur souveraineté et donc leur pouvoir de décision ? Et dans un second temps, est-ce que les populations et les opinions publiques ont conscience et ont la volonté d'aller sur ce chemin-là ? Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème de la zone euro, il est là. C'est-à-dire que les peuples ne se sont toujours pas déterminés quant à la trajectoire qu'ils souhaitent adopter. Si c'était le cas, si très clairement les peuples européens souhaitent d'avoir une Europe forte pour les protéger dans un monde où les États-Unis montrent les dents, les pays émergents tels que les pays asiatiques et la Chine montrent les dents, et y compris, je dirais, l'Angleterre font des politiques non collaboratives. Si les pays européens se sentent plus en sécurité au sein de cette zone euro-là, il faudra qu'ils adoptent une Banque Centrale Européenne plus proactive, des règles qui seront bien définies et des autorités de contrôle qui vérifieront que ces règles soient bien suivies.
Alors bien entendu, ça suppose un volet dont on n'a pas encore parlé, qui est un contrôle démocratique de la situation. Si l'Europe continue à être perçue comme le règne de la technocratie, comme un endroit où on impose des plans d'austérité aux populations sans les consulter, évidemment, elle sera rejetée. Mmh. Et donc, il faut que les progrès de la supranationalité qui accompagnent forcément la solidarité financière s'appuient sur un progrès démocratique. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
Énormément.
On peut même dire qu'on a régressé ces derniers 20 ans sur ce plan-là, dans la mesure où petit à petit s'est imposé un Conseil européen qui n'existait pas dans les institutions du traité de Rome et qui est composé des chefs d'État et de gouvernement sans aucune consultation des populations. Alors, quel est le remède ? Je pense qu'il y a deux voies qui doivent être poursuivies simultanément. L'une, qui est donner beaucoup plus de rôle au Parlement européen. Sur ce plan-là, il y a des progrès qui ont été faits au cours des dernières décennies, mais on est encore loin d'un rôle suffisant. Il faut que le Parlement ait un rôle de décision sur un certain nombre de choses, parce que c'est un organe démocratiquement élu, c'est la représentation de la volonté populaire. Il devrait probablement d'ailleurs être mieux élu, c'est-à-dire être élu pas forcément sur des listes, de préférence par tout le monde au même moment et pas à des dates différentes selon les différents pays d'Europe. Mais enfin, il y a en tout cas des progrès possibles et intéressants à faire de ce côté-là. Et le deuxième élément, c'est, je crois, comme l'a dit d'ailleurs le ministre allemand Schäuble, parce qu'il faut bien voir qu'en Allemagne, il y a aujourd'hui une nouvelle tendance beaucoup plus pro-européenne que ces dernières années, dans la mesure où les Allemands comprennent finalement que la solidarité est nécessaire et que donc il faut accepter et proposer plus de supranationalité. Donc Schäuble, il dit quoi ? Il dit qu'il faudrait qu'il y ait un président élu de l'Europe. C'est clair, élu directement par les citoyens et qui à ce moment-là aurait évidemment un rôle supranational beaucoup plus acceptable d'un point de vue démocratique. Il faut qu'on arrive à dépasser les égoïsmes nationaux étroits, mais on ne peut pas à la fois demander plus de solidarité et refuser les cadres politiques qui doivent accompagner cette solidarité indispensable. J'ajoute une dernière chose. Alors tout ça, ça nécessite certainement des sacrifices sur le plan de la souveraineté de chacun. Rappelons-nous simplement que si l'Europe n'existait pas, notre souveraineté serait encore beaucoup plus entamée, contrairement à ce que prétendent certains politiciens, c'est-à-dire qu'on serait totalement, et pas seulement partiellement, mais totalement dans la main des marchés financiers, et que la politique que pourraient faire nos gouvernements serait celle de tendre la sébille, d'essayer de boucler chaque fin de mois, et leur autonomie de décision serait totalement nulle.
Pour aller encore plus loin, le vrai problème, si on essaye de creuser, et qui explique sans doute justement cette démultiplication de la cohorte des indignés, et là pour le coup c'est un petit peu la faute gérée des hommes et femmes politiques qui nous représentent, c'est le manque de vision. Aujourd'hui, je crois que les gens sont prêts à entendre les sacrifices et ils ne sont pas dupes. Ils savent qu'il faudra faire des sacrifices dans l'avenir et sans doute que les décennies qui viendront sont peut-être un petit peu plus compliquées que les décennies passées. Maintenant, aujourd'hui, il faut leur offrir un horizon. Et la réalité, c'est là aussi un des problèmes européens, notre incapacité à redéfinir un cadre, à offrir une vision de long terme à horizon de 5, 6, 7 ans, vers quoi nous voulons nous tendre. Et le problème, c'est que nos plans européens pour régler nos problèmes de liquidité et notre crise de liquidité ces derniers mois, on court toujours derrière. C'est-à-dire qu'on invente un système pour répondre à un problème. Tant qu'on donnera cette image et cette impression de courir derrière des réponses qu'on construit au fil de l'eau, vous n'offrez pas de vision. Et c'est difficile, vous savez, d'avoir l'accord des gens et d'emporter l'opinion publique lorsque vous n'avez pas de vision. Je crois que cette vision, elle est nécessaire. Elle sera, et d'ailleurs, il faudra sans doute que les gens se prononcent par rapport à cette vision-là. Mais d'abord, proposons une vision. Aujourd'hui, je ne vois pas de vision européenne, hormis le fait qu'on parle de émettre ou pas des eurobonds. Ça fait partie
Tout est à courte durée.
Voilà, exactement, ça fait partie d'une trajectoire globale. Mais pour définir une trajectoire, il faut tendre vers un point qu'il reste à définir. Et là, pour l'instant, malheureusement, on en est très loin. Donc je crois que les gens seront prêts à faire des sacrifices et on leur explique que derrière ces sacrifices, il y a réellement du mieux. Aujourd'hui, c'est un travail qui n'a pas encore été accompli.
Merci beaucoup messieurs d'être venus nous parler de l'état actuel de la crise de l'Europe et des changements qui s'opèrent. Nous vous retrouverons certainement très bientôt. Merci beaucoup d'être venus.
Merci.